Chapitre 1. Voilà les choses que personne ne te dira, qu'il faut avoir vécu soi-même pour les connaître. Ça ne fait mal que les toutes premières fois. Tu cries encore et encore, jusqu'à en avoir la gorge à vif, les yeux bouffis, un drôle de goût au fond de la bouche. Une substance comme un mélange de bile, de vomi et de larmes. Tu appelles ta mère. Tu implores Dieu. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne peux pas croire que ça arrive. Et pourtant si. Alors, peu à peu, tu te tais. La terreur ne dure pas indéfiniment. C'est impossible. Ça demande trop d'énergie de l'entretenir. Et, à vrai dire, la terreur naît de la rencontre avec l'inconnu. Mais quand c'est arrivé un nombre suffisant de fois, quand tu as été systématiquement violenté, battu, soumis, ce n'est plus l'inconnu, n'est-ce pas? Le même geste dont la perversité t'a un jour choqué, blessé, humilié, devient la norme. Voilà ce que sont désormais tes journées. Voilà la vie que tu mènes. Voilà ce que tu es devenu. Un spécimen de la collection. Chapitre 2. Les araignées sont en permanence à l'affût de proies, mais des prédateurs sont aussi à l'affût des araignées. Celles-ci se mettent à l'abri du danger par d'habiles camouflages et des fuites rapides. Tiré de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, Saint Martin's Press, 2002. On a un problème. Sans rire, la production de cristal à grande échelle, une classe moyenne qui décroche de plus en plus, sans parler tout ce cirque à propos du réchauffement climatique. Non, un vrai problème. Kimberly soupira. 3 jours à présent qu'il travaillait sur cette scène de crime. Assez pour qu'elle ne remarque plus l'odeur de kérosène brûlé et de corps calciné. Elle était frigorifiée, déshydratée, et elle avait un point de côté. À ce stade, et de son point de vue, il en faudrait beaucoup pour faire figure de vrai problème. Elle siffla la fin de la bouteille d'eau, puis se détourna du village de tente qui abritait actuellement le poste de commandement pour faire face à son collègue. « Ok, Harold, quel est le problème ?»« Ah ah, il faut le voir pour le croire. » Sans attendre sa réponse, Harold s'éloigna à petite foulée, ne laissant d'autre choix à Kimberly que de le suivre. Il longea le périmètre de la scène de crime autour de ce qui avait autrefois été une prairie bucolique, en lisière d'une épaisse forêt. La moitié des arbres était désormais décapitée et le pâturage présentait une profonde et irrégulière balafre de terre qui aboutissait à un fuselage noirci, un tracteur John Deere écrabouillé et une aile droite tordue. Dans l'éventail des scènes de crime, les accidents aériens sont particulièrement complexes. Ils s'étendent sur de grandes superficies, présentent des contaminations biologiques, sont piégés par des morceaux de métal déchiquetés ou du verre brisé. Le genre de scène susceptible de désarçonner même le spécialiste du prélèvement d'indices le plus aguerri. En cet après-midi du troisième jour, l'équipe de Kimberly, chargée des constatations, avait enfin dépassé le stade de « par où on commence, bordel » pour rejoindre tranquillement la phase du « bien bossé, su à la maison demain soir pour le dîner ». Tout le monde s'envoyait moins d'Advil derrière la cravate, s'accordait des pauses déjeuner plus longues. Rien de tout cela n'expliquait pourquoi Harold entraînait Kimberly loin du poste de commandement, du ronronnement du groupe électrogène, de l'effervescence des dizaines d'enquêteurs qui travaillaient en même temps sur la scène. Harold continuait au petit trot en ligne droite. 50 mètres, 100 mètres, 800 mètres. Mais qu'est-ce qu'on fout, Harold? Encore 5 minutes, tu peux le faire. Harold pressa l'allure, Kimberly, qui n'était pas du genre à s'avouer vaincue, serra les dents et suivit. Ils arrivèrent au bout du périmètre de la scène de crime et Harold tourna à droite dans le petit bosquet qui avait provoqué tout ce carnage et dont les grands arbres tendaient leurs pics blancs en dents de scie vers le ciel d'hiver nuageux. « Y a intérêt que ça vaille la peine, Harold. »« Ouais. S'il s'agit de me montrer une mousse rare ou une espèce de graminée en voie de disparition, je te tue. »« Je n'en doute pas. » Harold se faufilait entre les arbres fracassés, se frayait un chemin au milieu des épaisses broussailles. Quand enfin il s'arrêta, Kimberly faillit lui rentrer dedans. « Regarde là-haut, » ordonna-t-il. Elle obtempéra. « Oh merde. On a un problème. » L'agent spécial du FBI, Kimberly Quincy, avait tout pour elle. Belle, intelligente et de noble extraction, puisqu'elle était la fille d'un légendaire ancien profileur du FBI, dont le nom était associé à ceux des Douglas et autres Ressler dans les amphithéâtres de l'Académie. Elle avait des cheveux blonds, cendrés, mi-longs, des yeux bleus vifs et des traits fins et aristocratiques. Héritage de sa mère décédée, laquelle était à l'origine de la deuxième série de rumeurs qui devait suivre Kimberly jusqu'à la fin de sa carrière. Avec son 1,70 m et sa constitution svelte et athlétique, Kimberly était connue pour sa résistance à la fatigue, sa maîtrise des armes à feu et sa profonde aversion pour les contacts physiques. Si elle ne faisait pas partie de ses collègues qui provoquent le coup de foudre, elle inspirait assurément le respect. À l'aube de sa quatrième année au sein du bureau du FBI à Atlanta, alors qu'elle avait enfin été affectée au service de police judiciaire et nommée à la tête d'une des trois équipes de relevé d'indices que comptait la ville, sa carrière était sur de bons rails, du moins jusqu'à ses 5 derniers mois. Quoique ce n'était pas non plus tout à fait exact. Hormis le fait qu'elle ne participait plus aux exercices de tir, rien n'avait changé. Après tout, le FBI d'aujourd'hui se voulait une administration éclairée. Tout pour l'équité, la justice et l'égalité des sexes. Comme les agences plaisaient à le dire pour la charrier, ce n'était plus le FBI de papa. Dans l'instant présent, Kimberly avait de plus gros problèmes à résoudre. À commencer par la jambe sectionnée qui se balançait dans un rhododendron géant, 3 mètres à l'extérieur du périmètre de leur scène de crime. « Mais comment tu as bien pu voir ce truc-là » demanda-t-elle en regagnant le poste de commandement au pas de charge avec Harold Foster. « Les oiseaux. J'en voyais tout le temps une volée s'enfuir de ce bosquet. Du coup, je me suis dit qu'il devait y avoir un prédateur dans les parages. Et du coup, je me suis demandé ce qui pouvait attirer un prédateur dans un endroit pareil. Et là... « Tu sais ce que c'est ?» conclut-il laconique. Kimberly acquiesça, même si, étant elle-même une fille de la ville, elle ne savait pas vraiment ce que c'était. Harold, en revanche, avait grandi dans une cabane en rondin et travaillait pour l'Office national des forêts. Il savait suivre un lynx à la trace, dépouiller un cerf et prédire la météo en observant la répartition de la mousse sur un arbre. Avec son 1,90 m pour 85 kilos, il tenait plus du poteau télégraphique que du bûcheron. Mais marcher 30 kilomètres n'était pour lui qu'une promenade de santé et lorsque les équipes de relevé d'indices d'Atlanta avaient travaillé sur l'affaire Rudolph, le poseur de bombes du parc olympique, Harold avait réussi à rejoindre son campement isolé 1 heure avant le reste de la troupe qui s'échinait encore à gravir la pente boisée à 45 degrés. « Tu l'annonces à Rachel ?» demanda Harold. « Ou il faut que je le fasse ?»« Oh, je crois que tout le mérite devrait te revenir. »« Non, non, vraiment. C'est toi le chef d'équipe. Et puis, elle s'énervera pas contre toi. » Il insista plus que nécessaire sur cette dernière phrase. Kimberly voyait ce qu'il voulait dire. Et bien sûr, il avait raison. Elle se massa le côté et fit comme si cela ne la contrariait pas. Tout avait commencé le samedi. lorsqu'un 727 avait décollé de l'aéroport de Charlotte, en Caroline du Nord, à 6h05 du matin. Avec 3 membres d'équipage à son bord et le ventre plein de courriers, il devait arriver à Atlanta à 7h20. Le temps était humide et brumeux, avec risque de verglas. L'origine exacte du drame restait encore à déterminer par l'aviation civile. Mais peu après 7h15, pendant la première phase d'approche de la piste, le 727 avait perdu de l'altitude, accroché le sommet d'un bosquet dense avec son aile droite et était venu donner de la bande dans un champ où il avait accompli une sorte de roue et embouti une moissonneuse-batteuse, 2 camionnettes et un tracteur, le tout en répandant des débris métalliques sur une glissade de près d'un kilomètre qui s'était achevée par l'embrasement du fuselage. Le temps que les secours arrivent, les membres d'équipage avaient péri et il ne restait plus qu'une toute petite formalité à accomplir, analyser une traînée d'un kilomètre de débris, parmi lesquels 3 cadavres, un avion, 4 engins agricoles et une avalanche de lettres. Les gars de l'aviation civile étaient arrivés pour superviser les opérations et, en vertu du protocole d'accord passé entre l'aviation civile et le FBI, les 3 équipes de relevé d'indices d'Atlanta étaient mobilisées pour les assister. Le premier geste du coordinateur des équipes du FBI, Rachel Childs, avait été de définir un périmètre. Règle numéro 1 en matière d'explosion et d'accident d'avion, le périmètre est établi à 150% de la distance entre l'épicentre de l'explosion et l'indice le plus éloigné. Autrement dit, si l'indice le plus éloigné se trouve à 100 mètres de l'explosion, le périmètre est à 150 mètres. Or, dans le cas présent, le périmètre s'étendait sur 4 km de long et 800 mètres de large. Pas franchement une scène de crime classique du type silhouette tracée à la craie sur le plancher de la bibliothèque, là où le majordome a tué un homme avec un chandelier. Mais une scène absolument idéale pour le dernier joujou high-tech du FBI, le tachéomètre électronique. Mis au point à partir de l'instrument d'arpentage classique employé par les équipes d'entretien des routes, le tachéomètre électronique était un laser relié à un logiciel spécial scène de crime. Grâce à lui, le relevé des données se faisait littéralement d'une pression sur un bouton, après quoi il crachait des modélisations en 3D dernier cri sur lesquelles les enquêteurs pouvaient méditer à chaque changement d'équipe. La procédure était relativement simple, mais le travail intense. Pour commencer, des dizaines de techniciens de scène de crime procédaient aux constatations, plaçant un signal sur chaque indice avant de le classer : débris d'avion, restes humains, effets personnels. Puis, celui qui avait été désigné jalonneur installait un prisme réflecteur sur chaque indice étiqueté. Enfin, l'opérateur visait le prisme et appuyait sur le bouton pour entrer l'indice dans la base de données du logiciel jusqu'à des distances de 5 km, tandis que le préparateur greffier supervisait les opérations en inventoriant et numérotant chaque objet entré dans le fichier. Tout le monde travaillait d'arrache-pied et en un clin d'œil, un chaos de débris tentaculaires était réduit à une jolie maquette numérique qui donnait presque un sens aux vicissitudes du destin. Il y avait là de quoi satisfaire n'importe quel maniaque du contrôle. Description qui allait comme un gant à Kimberly. Elle adorait être jalonneur, mais cette fois-ci, elle avait dû se contenter de tenir les registres. Ils étaient en vue du poste de commandement. Kimberly aperçut un petit peloton en chemise blanche et uniforme bleu marine, les représentants de l'aviation civile penchés sur un gigantesque plan du 727 originel. Puis un groupe vêtu de bleu électrique, une demi-douzaine de techniciens de scène de crime encore en tenue de protection, et enfin une tête d'épingle d'un cuivré flamboyant, Rachel Childs, rousse, patronne des équipes de relevé d'indices et perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Kimberly et Harold passèrent sous le ruban de la scène de crime. « Bonne chance », murmura Harold. L'agent spécial coordinatrice Childs était partie pour devenir une célèbre architecte à Chicago lorsqu'elle avait finalement décidé d'entrer au FBI. Elle s'était retrouvée assistante d'un des plus grands sorciers de Chicago en matière de recherche d'indices et le sort en avait été jeté. Rachel avait trouvé sa vocation. Son attention aux détails, son aptitude à dessiner des croquis à l'échelle et son obsession de la paperasse s'étaient révélées bien plus précieuses pour la collecte d'indices que pour l'embellissement du paysage urbain de Chicago. Tout cela remontait à 15 ans et elle avait définitivement tourné la page. Du haut de son 1,50 m pour 52 kilos, c'était une petite tornade passionnée à la Nancy Drew, qui était à deux doigts de commettre son premier meurtre. « Mais comment avez-vous pu passer à côté d'un truc aussi énorme qu'une jambe ?» rugissait-elle. Kimberly, Harold et elle s'étaient éloignés de la foule pour gagner l'abri relatif d'un groupe électrogène bruyant. Rachel ne passait de savon à ses équipiers qu'en privé. Son équipe était sa famille. Elle pouvait savoir qu'ils étaient des tocards, elle pouvait le leur dire, mais cela ne regardait qu'eux. « Ben, la jambe se trouve dans un arbuste, » osa enfin Harold. « Sous un arbre, pas trop facile à voir. »« On est en février. Il y a longtemps que les feuilles sont tombées. Ça aurait dû être visible. »« C'est dans une pinède, » répondit Kimberly. Harold m'y a emmené direct et même comme ça, j'ai rien vu avant qu'il me montre. Franchement, je suis bluffée qu'il ait vu quoi que ce soit. » Harold lui lança un regard plein de gratitude. Kimberly haussa les épaules. Il avait raison. Rachel ne serait pas trop dure avec elle, autant en faire profiter les autres. « Fais chier !» bougonna Rachel. « À J3, on devrait être en train de boucler, pas de reprendre les recherches. Avec ces erreurs d'amateur, ça arrive. Oklahoma City, le crash aérien de Nashville, des scènes de cette ampleur, c'est même étonnant qu'on arrive à en faire le tour, » intervint à nouveau Kimberly. « Quand même !» On rectifie le périmètre. On concentre nos recherches sur le flanc ouest. Ça nous coûtera une journée supplémentaire, mais avec un peu de chance, il ne nous manquait qu'une jambe égarée. Rachel semblait pourtant de plus en plus contrariée. Attendez une minute. Vous êtes sûre que c'était une jambe ? Ah, c'est pas la première fois que j'en vois, répondit Harold. Moi non plus, confirma Kimberly. Mais Rachel s'était brusquement pris la tête entre les mains. « Oh, fais chier. Il ne nous manque aucun membre. On a sorti trois corps de la cabine de pilotage intacte juste ce matin. Et vu que j'ai dirigé l'opération, je suis bien placée pour savoir qu'on avait les six jambes. » Harold regarda les deux femmes. « Je t'avais dit qu'on avait un problème. » Ils emportèrent un appareil photo, des lampes torches, des gants, un râteau et une bâche. Un mini nécessaire de relevé d'indices. Rachel voulait voir la jambe par elle-même. Peut-être qu'ils auraient de la chance. On s'apercevrait qu'il s'agissait d'un morceau de tissu, du bras arraché d'un mannequin grandeur nature, ou mieux encore, du jarret postérieur d'un chevreuil qu'un chasseur aurait habillé juste pour rire. On avait déjà vu plus bizarre en Georgie. Comme il ne restait que 2 heures avant la tombée de la nuit, ils agirent rapidement mais efficacement dans le bosquet. Ils commencèrent par passer le sol au peigne fin pour s'assurer qu'il ne piétinait rien. Puis, en plissant les yeux, Harold et Kimberly prirent l'objet dans les faisceaux croisés de leurs lampes torches, l'illuminant parmi les ombres des arbustes luxuriants. Rachel prit une demi-douzaine de clichés numériques, puis vint le tour du mètre et de la boussole pour noter la taille approximative de l'arbuste, sa situation par rapport au point fixe le plus proche, sa distance du périmètre actuel. Enfin, quand ils eurent tout consigné, sauf le ululement d'une chouette effraie et le vent qui leur chatouillait la nuque, comme un frisson qui s'apprêtait à se glisser sous leur combinaison anti-vec, Harold souleva précautionneusement l'objet dans la nacelle que formaient les dents de son râteau. Rachel se hâta de déplier la bâche. Harold déposa sa trouvaille au milieu d'un océan de plastique bleu. Ils l'examinèrent. « Fais chier !» commenta Rachel. C'était bel et bien une jambe, cisaillée au-dessus du genou, et dont le sommet du fémur luisait, blanc, sur la bâche bleue. À en juger par la taille, sans doute un homme, en jean. « Tu es sûre que les trois corps étaient intacts ?» demanda Kimberly. Elle n'avait pas pu participer au relevé des indices cette fois-ci. Elle préférait se dire que cela ne l'ennuyait pas, mais si. Surtout maintenant qu'on avait, semblait-il, laissé passer un truc évident. Parce que, vu comme le cockpit a cramé, les corps ne pouvaient pas être en excellent état. En fait, le cockpit s'était séparé du fuselage principal. Il était roussi, mais pas anéanti. Il n'a pas été éclaboussé de kérosène pour que la température monte à ce point. « C'est pas un pilote, » constata Harold. « Les pilotes ne portent pas de jeans. » « Un fermier ? Un ouvrier agricole ?» s'interrogea Kimberly. Peut-être qu'au moment où l'avion a télescopé le tracteur... Mais elle sut que c'était faux au moment même où elle le disait. Le fermier en question était déjà venu examiner les dégâts et pleurer sur son matériel. S'il lui avait manqué un employé, ils en auraient entendu parler à l'heure qu'il était. « Je ne comprends pas. » Rachel reculait, observait les bois alentour. « Nous sommes au milieu des arbres que l'avion a percutés tout au début. Regardez ça. » Elle montrait les cimes blanches et acérées des arbres déchiquetées jusqu'à quelques mètres plus au sud. Premier impact avec le bout de l'aile. L'aile droite est brusquement tirée vers le bas. L'avion vacille, mais le pilote corrige. Il corrige trop, en fait, puisqu'à 100 mètres de là, continua-t-elle en pivotant pour désigner un endroit hors de leur vue, dans la terre, au bord du champ, nous trouvons la profonde entaille laissée par le bout de l'aile gauche qui est descendue, s'est enfoncée et a fait partir l'avion dans une vrille fatale, conclut Kimberly. Autrement dit, à ce moment-là, à cet endroit, l'avion ne devait pas être encore en vrille et les jambes de l'équipage ne devaient pas tomber du ciel. Vous imaginez ça? Nous sommes à 1,5 km du cockpit. Même si ce foutu avion avait explosé, et nous savons que ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on retrouverait une jambe jusqu'ici? Harold décrivait un petit cercle en scrutant le sol. Alors Kimberly fit ce qui s'imposait. Elle recula, leva la tête et inspecta les arbres. La chance voulut qu'elle fût la première à le découvrir. Juste à 5 mètres de là, pratiquement à hauteur des yeux, de sorte qu'elle fut fière de ne pas avoir hurlé, l'odeur l'avait prévenue. Une odeur de rouille, âcre. Puis elle avait repéré le premier lambeau orange fluorescent, puis un autre, et un autre encore, jusqu'à finalement... Il n'avait plus de tête. Ni de bras, ni de jambes gauches, si bien qu'il ne restait qu'une forme étrange, voûtée, encore accrochée aux branches d'un arbre. « Je crois qu'on rentrera pas à la maison demain », commenta Kimberly lorsque Rachel et Harold la rejoignirent. « Un chasseur ?» s'étonna Rachel, incrédule. « Mais la saison est finie depuis des mois pour les cervidés. »« Elle est finie depuis fin janvier pour les cervidés. » précisa obligément Harold, mais elle se prolonge jusque fin février pour le petit gibier. Puis il y a les sangliers, les ours, les alligators. Mais on est en Géorgie, il y a toujours moyen de tirer sur quelque chose. « Pauvre vieux, » murmura Kimberly. « T'imagines ? T'es assis là dans un arbre à guetter un opossum, une grouse, une caille, un lapin, un écureuil, » compléta Harold. « Tout ça pour être décapité par un 727 ?» Quelle est la probabilité ? Quand ton heure a sonné, reconnut Harold. Rachel avait encore l'air franchement irritée. Mais après un dernier soupir, elle se reprit. Bon, il nous reste encore quelque chose comme 1 heure avant la tombée de la nuit, ne la gaspillons pas. En fin de compte, l'aviation civile ne s'intéressa pas trop à la présence d'une jambe dans les bois. Dans les milieux aéronautiques, la mort d'un chasseur s'apparentait à un dommage collatéral. On pouvait laisser ça au FBI. Rachel passa quelques coups de fil, réclama un nouveau véhicule de l'identité judiciaire et suffisamment d'agents et de volontaires des forces de l'ordre expérimentés pour faire une battue. Un quart d'heure plus tard, un groupe d'adjoints du shérif et d'agents du FBI était dûment rassemblé dans les bois. Harold distribua de fines sondes à chacun des volontaires et leur donna des instructions sur l'importance de regarder en l'air et au sol. En tant que chef de ligne, il ferait de son mieux pour que tout le monde reste bien en rang, ce qui s'avérait souvent difficile sur ce type de terrain. D'après le shérif du coin, on avait signalé le matin même la disparition d'un certain Ronald Danvers, dit Ronnie. Ronnie, 20 ans, était parti à la chasse 3 jours plus tôt. Lorsqu'il n'était pas rentré, Sa petite amie avait pensé qu'il était allé voir des copains. Mais ce matin-là, quand elle avait fait un tour là-bas pour l'engueuler, elle avait enfin compris son erreur. Il lui a fallu 3 jours pour comprendre qu'il avait disparu, s'étonna l'agent Tony Cobble. C'est beau l'amour. Il semblerait qu'ils avaient des problèmes, expliqua Harold. La petite copine est enceinte et apparemment sujette aux sautes d'humeur. Harold regarda tout sauf Kimberly en disant cela. Comme il se doit, les autres se tournèrent vers elle. Hé, j'ai pas de sautes d'humeur, dit-elle. J'ai toujours été chiante. La crampe de son côté gauche s'était finalement calmée, laissant derrière elle une sensation toute différente. Comme un petit hoquet sous sa dernière côte. Cette sensation était encore nouvelle et miraculeuse pour elle. Sa main restait posée sur le bas de son ventre, dans un geste on ne peut plus maternel, mais c'était plus fort qu'elle. Le reste de son équipe la regardait avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ils avaient déjà posé une cigogne sur la cloison au-dessus de son bureau. La semaine précédente, en revenant du déjeuner, elle avait trouvé sa corbeille de courrier pleine de tétines. Les agents du FBI sont censés être des durs à cuire, mais ces derniers temps, il suffisait qu'elle pousse un profond soupir pour que quelqu'un se précipite et lui apporte un verre d'eau, une chaise, des cornichons. Quelle bande de nigauds! Mais il fallait reconnaître qu'elle les adorait, tous jusqu'au dernier. Même Harold, je sais tout. Voilà ce qui se passe, expliqua Rachel. On croyait qu'on aurait le luxe de rentrer chez nous ce soir, ou pour ceux d'entre nous qui ne rentrent jamais chez eux, de faire au moins un saut au bureau pour expédier les affaires courantes, mais ça ne sera pas le cas. Il nous reste 1 heure, peut-être 2. Il faut qu'on cartographie les lieux, qu'on relève les indices et qu'on les rapporte au poste de commandement où on pourra les examiner sous les projecteurs extérieurs. Autrement dit, vous pouvez une nouvelle fois me remercier pour tous ces bons moments que vous passez grâce à moi. Les volontaires maugréèrent. Rachel se contenta de sourire. « C'est bon, les gars. Trouvez-moi la tête de Ronnie. »